Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé un trésor ». C'est une émission qui va un peu empiéter sur une autre émission de Radio Alliance Plus intitulée « La route des taureaux » animée par Benoît Mutel et Didier Lourdou. Je leur demande de ne pas m'en vouloir et je vous conseille vivement d'écouter et de suivre « La route des taureaux », une émission mensuelle de 45 minutes consacrée à toutes les formes de tauromachie. Au cours de ce voyage, Benoît Mutel et Didier Lourdou nous font rencontrer différentes personnes dont l'activité est liée directement ou indirectement à la tauromachie. Ils évoquent avec elles, lors d'entretiens libres, leur parcours, leur passion, leur métier, leur vie et leur vision de l'avenir de cette culture, de ces cultures. Aujourd'hui, j'ai invité Alain Moncouquiole, dit Nîmenio 2. Alors, je viens de l'apprendre en lui demandant juste avec l'émission ce que voulait dire Nîmenio, parce que je crois qu'il y a peu de Nîmes en fait qui le savent. En fait, il cherchait un nom de corrida et en Espagne, on lui a dit Nîmenio, ça veut dire le Nîmois. Donc, c'est peut-être une première pour beaucoup. Et alors, je l'ai invité pour évoquer l'appréhension de la peur des toreros avant l'entrée sur la piste ainsi que la confrontation avec le taureau qu'ils vont mettre à mort. Ils ont peur, car la mort est omniprésente. C'est pour cela que je pense que ce sujet d'anthropologie, qui intègre à mon avis la médecine, peut être traité dans une émission consacrée à la santé. Cette émission est aussi un hommage à Christian Moncouquiole, dit Nîmenio 2, le Nîmois 2, et son épouse, sa fille et son fils. J'ai bien connu Christian Moncouquiole, et nous nous tutoyons lorsque j'étais alguazil. Il m'a souvent tapoté la cuisse, moi à cheval, lui à pied, juste avant le paseo, comme le font quasiment tous les toreros, comme pour conjurer le sort, car ils vont affronter la mort, leur propre mort. Je pense aussi aujourd'hui à Louis Ral et à sa cavalerie de corrida, un de mes maîtres, qui m'a beaucoup appris, ainsi qu'à Philippe son fils, un ami et enfin au docteur Daniel de Roc, acupuncteur, un ami fidèle des Moncouquiole, qui était aussi pour moi un ami et qui malheureusement nous a quittés. Alain Moncouquiole est né le 4 septembre 1945 à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Il y a 130 ans, le Landais Félix Robert, héros de la corrida de Dax, devient le premier matador français, un matador des matards tués en espagnol et le torero chargé de la mise à mort du taureau. Il y a 50 ans, le 25 juin 1972, dans les gradins, des jeunes ne rêvent que de devenir torero, surtout des Nîmois. Simone Cassas, Alain et Christian Moncouquiole, Jean-Marie Bourret, Curo Caro et Patrick Laugier, qui lui sera un futur éleveur. Au quatrième taureau, drapeau tricolore en guise de cape, ils sautent tous en piste. Simone Cassas, Alain Moncouquiole, toré le novillo soto de Juan Guardia et Mito, un torero vénézuélien qui le toré se retire alors. La gendarmerie interviendra pour faire cesser l'incident. Personne à l'époque ne croyait au torero français. L'aficion française considérait que si on n'avait pas de sang espagnol dans les veines, on ne peut pas devenir torero. Alain Moncouquiole est avec Simon Cassion l'un des tout premiers toreros français de l'après-guerre. Il se retrouve à l'âge de 9 ans à Nîmes par le hasard des mutations d'un père militaire qui mourra accidentellement quelques mois après son arrivée dans le Gard. C'est auprès de ses camarades d'école que notre invité découvre la corrida. Il décide de consacrer sa vie à l'aventure de la tauromachie. Il part en Espagne avec Simone Cassas et choisit son nom de torero El Nîmenio, le Nîmois. 10 ans d'années de novilleda et de festivals, de triomphes et de désillusions vont s'écouler. En 1968, il est avec Simone Cassas lauréat de la fondation Marcel Bleutin-Blanchet, fondée en 1960, et il est l'un des principaux acteurs du mouvement des taureaux français. Au moment où Alain prend conscience qu'il n'ira pas plus loin dans sa carrière en 1974, il met fin à celle-ci pour s'occuper de celle de son frère. Il assiste à la naissance d'un autre Nîmenio, d'un autre Nîmois, le second, son frère Christian, qu'il décide de conseiller et d'accompagner tout un chacun connaît la suite. Bonjour à vous, Monsieur Moncouquiole, et merci de venir nous donner de votre temps et de nous faire bénéficier de votre expérience.
Bonjour.
Le sujet de cette émission, vous l'avez compris, c'est la corrida où le taureau ne sera pas présent, ni le sang, mais surtout une émotion, la peur. La peur qui est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Alors, je vous pose la première question, en tant que torero, pour vous, qu'est-ce que la peur en tauromachie ?
En fait, il n'y a pas la peur, il y a les peurs. Il y a la peur de l'imagination. C'est, de toute façon, la peur, on la retrouve partout. J'imagine que vous, dans l'exercice de votre profession, vous avez dû avoir des patients qui avaient peur. C'est une autre peur. Et la peur des taureaux n'est qu'une peur parmi tant d'autres. Pour essayer de simplifier, il y a la peur de l'imagination, c'est-à-dire c'est la peur avant de taurer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais être blessé? Est-ce que je ne vais pas être ridicule? Est-ce que je ne vais pas me dégonfler? Là, on imagine tout et son contraire, c'est une peur. Ensuite, il y a, à entrer dans l'arène, il y a une deuxième peur, beaucoup plus concrète, c'est le taureau, dont la puissance vous effraie, vous inquiète. Mais là, c'est une peur qui est différente parce que vous pouvez lutter contre elle. Vous avez une technique qui fait que vous pouvez dominer le taureau, vous êtes dans l'action. Alors que la peur précédente, elle est complètement passive. Elle est dans la chambre d'hôtel et celle-là est une autre peur. Mais c'est un sujet tellement complexe qu'on ne peut pas parler de la peur sans parler du courage. Moi, je considère le courage et la peur comme une sorte de couple infernal où quand l'un des deux marque un point, c'est l'autre qui perd. Ce sont des espèces de vases communicants. C'est un sujet qui paraît comme ça assez simpliste et qui, en fait, ne l'est pas.
C'est un sujet d'autant plus intéressant que je l'ai proposé comme émission que vous acceptez de le traiter. Et donc, je trouve que ça serait le sujet d'un livre à deux qui serait passionnant. Alors, comme vous dites, il y a des peurs où on n'est pas actif et des peurs où on est actif. Donc, il faut différencier en médecine la peur et l'angoisse. Et l'angoisse, c'est une peur sans cause. Bon, la peur dont vous parliez, c'est la peur de projection. C'est une peur avec une cause future. Et puis, il y a la peur quand on est confronté. Donc, c'est l'action du combat. C'est-à-dire pour ça qu'il y a le combat.
Et puis, la peur prend des formes différentes suivant les individus.
Oui, après, c'est personnel.
Un garçon extrêmement imaginatif imaginera qu'un taureau va le tuer, que ça peut imaginer des choses terribles. D'autres peuvent se débrouiller. Moi, bien sûr, en tant d'années à fréquenter des taureaux, j'ai vu toutes les différences qu'il y a entre les uns et les autres. Et c'est très riche d'enseignements. D'ailleurs, ça ressemble à la vie.
Oui, la vie, c'est la peur. Oui. Hein. C'est la peur. Alors, je peux faire une confidence, comme vous avez évoqué le médecin que je suis ou que j'ai essayé d'être et qui est confronté à la peur. Bien évidemment, on est confronté quotidiennement de multiples reprises à la peur. Mais il faut qu'on vous l'avoue, hein, les médecins ont peur et ont différentes peurs.
Et j'espère.
Et, voilà. Et donc, le médecin connaît la peur. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de peur entre tous les toreros? Alors, vous m'arrêtez si je dis n'importe quoi. Les toreros, ce sont les gens qui s'occupent du taureau, si vous me permettez l'expression, qui sont dans l'arène. Oui. Péon, matador, picador, etc. Oui. Et le matador, comme son nom l'indique, matar de mourir, c'est celui qui fait la faena de fin de tertiaire et qui tue le taureau, matar. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a des peurs différentes entre les différents toreadors, que le matador a-t-il plus peur que, par exemple, le picador?
Oui, de toute évidence, le matador, c'est celui qui est le plus longtemps en situation de danger. Le picador, ça se passe pendant un moment. Maintenant, pour parler de la peur du matador lui-même, cette peur, elle est nuancée par la qualité, le danger ou l'absence de danger du taureau. Il est certain qu'un matador professionnel se rendra compte qu'un taureau est noble et qu'il est facile. Ce n'est plus de la peur, il n'y aura que du plaisir. Si par contre, un bon professionnel qu'il est, il a reconnu dans le regard et le comportement de son taureau quelque chose d'éminemment dangereux, il se méfiera. Ça ne sera plus de la peur, ça sera de la crainte, hein, ça sera autre chose. Il faudra qu'il soit plus attentif, mais il dominera toujours la situation. C'est toujours lui qui prendra les décisions, ni son imagination, ni les autres. C'est une histoire intime entre lui et le taureau. Et quand vous me parlez de son équipe, son équipe joue un rôle qu'on pourrait définir, hein, qui est très compliqué aussi. Mais ce n'est pas le plus important. L'important, c'est cette espèce de face-à-face, le taureau, le torero. Et puis, ajoutons, alors là, c'est un peu plus, disons romantique, le public.
Oui, le public, qui fait partie entièrement de la corrida. Une corrida sans public, ça n'a pas de couleur.
Ça n'a pas de sens, c'est le rôle du public. Alors les écrivains ont beaucoup, beaucoup écrit là-dessus, j'allais dire beaucoup trop, mais c'est vrai que le public peut avoir un rôle très important d'encouragement pour le torero, ou le contraire, découragement, ou... Bon, c'est une...
Le public fait partie aussi de la peur des toreros et du matador.
Nous le voyons quand nous allons dans les élevages, où il n'y a pour seul témoin que les oiseaux et les abeilles. C'est pas pareil.
Oui, oui. Alors, une question me vient, que je voulais pas vous poser, mais c'est vous qui les nuisez. En fait, vous dites que le matador évalue son taureau. Alors, on le sait, quand il rentre, on voit... Moi qui suis cavalier, un taureau, c'est un quadrupède qui galope comme un cheval, tout ça. Donc, il y a les allures en droitier, gaucher, etc. Donc, c'est très, très important. Mais vous dites qu'il évalue. Est-ce que vous pensez que lors du combat, les taureaux aussi ont peur?
Alors, écoutez, moi, l'anthropomorphisme, c'est pas tout à fait mon truc.
Oui, non, mais c'est votre sentiment qui m'intéresse.
Je sais que ça existe. Je sais qu'il s'est écrit beaucoup de choses. Oui. Par exemple, en matière de littérature, il y a très, très peu d'écrivains qui ont échappé à cette espèce d'envie de faire parler le taureau, de faire penser le taureau.
On se projette, c'est ce que j'appelle le syndrome de la peluche.
Voilà. Mais moi, je viens vous parler comme... ex-professionnel de la tauromachie, oui. Que je ne suis donc plus du tout. Donc je pense que le taureau, il y a pour le taureau, en essayant, en toute modestie, de mettre à sa place, il peut y avoir des phénomènes de crainte,
oui.
De peur. La preuve, par exemple, le taureau, il y a des taureaux qui ne supportent pas la douleur. Dès qu'ils sont piqués, ils fuient désespérément pour que ça s'arrête. Et en fait, le grand courage, l'énorme courage du taureau de combat, et c'est un pléonasme, mais c'est son absence de découragement.
Oui, c'est ça.
Quand on y réfléchit, un taureau, il va charger une fois, deux fois, 10 fois, 50 fois, 70 fois. À n'importe quel moment, on se dit, mais il devrait
s'arrêter. Oui.
J'en ai marre, qu'est-ce que c'est
ça? Je jette l'éponge.
Voilà. Donc, il est porté par sa génétique, il est porté par son courage, il est poussé, je sais pas, on peut trouver tous les mots qui vont avec, mais c'est cette façon de ne pas se décourager qui est admirable. Et on retrouve le même phénomène chez les toreros. Parce que pour devenir un grand taureau, il ne suffit pas d'avoir du bon goût, du bon sens, du courage, être bien habillé, etc., etc., être bien entouré. Il faut surtout être très sûr de soi. Oui. Et ça, c'est une lutte permanente. C'est une lutte permanente. Et les grands toreros, c'est à cela que je voulais en venir, on les reconnaît souvent au fait qu'ils sont capables de lutter contre le découragement, contre l'injustice, contre la malchance. Moi, j'en ai connu des toreros... Leur début de carrière, ils sont brillants, ils prennent un gravissime coup de corne, ils perdent tout leur contrat, on les aimait, on les aime plus. Et la plupart des gens diraient, ce métier n'est pas fait pour moi, j'arrête. Mais vous en avez qui sont capables de rester 1 an, 2 ans, 5 ans à attendre, en ayant toujours le même rêve, en ayant toujours la même force. Et ces toreros-là, lorsque un jour la chance leur sourit, ils sont parfaitement prêts, comme s'il n'y avait pas eu ces 4-5 ans de traversée du désert qui ont précédé. Et nous avons des exemples extraordinaires aujourd'hui. Manuel Escribano, un garçon pendant 10 ans, il aurait eu une corrida par an. Mais le jour où il a eu sa chance, il ne l'a pas laissé passer. Vous avez le jeune français Clemente, qui a été blessé à Nîmes avant-hier. Clemente, qui est un taureau talentueux, nous autres, nous le savions depuis longtemps. Il est resté 7-8 ans complètement ignoré. Le milieu taureau ne savait même plus qu'il existait. Sauf ce garçon, pendant 7-8 ans, il a continué à rêver, à travailler, et le jour où il a eu sa chance, il ne l'a pas laissé passer. Et c'est en ce sens-là que la façon de lutter contre le découragement rapproche le taureau, je m'en ai parlé avant, et le torero, comme je viens de vous le dire.
Et ils se rejoignent dans l'amour, en fait.
Alors après, c'est autre chose, oui. Après, ils se rejoignent, donc plus compliqué.
Plus compliqué. Eh bien, je vous propose une trêve musicale aujourd'hui en nous rapprochant du pays où est née la corrida, l'Espagne, en écoutant une musique de Paseo Espagnol, La Passion. Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaune sur Radio Alliance Plus. Sur 103.2 FM, nous rencontrons aujourd'hui une figura, comme on dit en espagnol, nîmoise, un des premiers toréadors nîmois, Alain Moncouquiol, dit Nimeño 1, le nîmois, à qui j'ai demandé de nous parler de la peur du torero. Alain Moncouquiol l'a déjà évoqué, mais je voudrais qu'il aille un peu plus loin. Les taureaux, et d'autant plus le matador, n'ont-ils pas plusieurs peurs? Tout le monde pense au danger du taureau, à la mort, mais qu'en est-il de la peur de l'erreur, de décevoir, de ne plus être aimé, d'être rejeté, d'être jalousé, la peur du jugement? En fait, entre les corridas, quelles sont les peurs? On parle de la peur en rapport avec la corrida, mais entre les corridas, quelles sont les peurs des toreros?
Alors, entre les corridas, heureusement, il n'y a pas que la peur. C'est un métier qui paraît un
J'aime
peu fou,
vos côtés positifs.
Qui est très dangereux, mais c'est un métier dont les acteurs espèrent du bonheur, de la joie. Ils réalisent un rêve. Moi, j'aime beaucoup une phrase d'un psychiatre espagnol, Tosquelles, je crois, qui disait « Qu'est-ce que réussir sa vie ? Réussir sa vie, c'est réussir sa folie. » La tauromachie est une forme de folie. Et il ne faut pas trop s'apesantir cette notion de peur. Elle existe, bien sûr, mais il faut la laisser à la bonne distance, sinon vous êtes bouffé par elle. Les voyages des toreros, ce sont des heures en voiture, en avion. On parle effectivement des fois de choses désagréables, mais la plupart du temps, on parle de choses qui sont du domaine du bonheur de vivre quelque chose qu'on a voulu, qu'on s'est battu pour obtenir. Et on parle avec qui? Avec des picadors, des banderillères, des gens qui ont une lourde expérience de l'échec. Quand on est devenu banderillère, par exemple, c'est qu'on a été un matador raté, qu'on n'y est pas arrivé. Et donc, on est entouré de gens qui n'ont pas besoin de faire de grands discours pour se comprendre. Et récemment, il y a eu un film qui est passé au sémaphore, qui a fait polémique, qui s'appelle « Tardes de Soledad » de Serrat, et qui divise le monde de la tauromachie en deux parties, ceux qui adorent, ceux qui n'aiment pas, et ça pose des bonnes questions.
Ouais. Et alors, on parlait tout à l'heure du public. Et pourriez-vous nous dire de la peur de ne plus être aimé du public? Parce qu'en fait, un matador, un torero, vous l'avez expliqué, un matador aime le public. Il faut voir, moi je l'ai vu de très près, puisque j'étais sur la piste, j'étais à 2-3 mètres de quelqu'un qui venait de tuer son taureau, qui tombe brutalement, une mort, une faïena parfaite, une mort parfaite. Il y a une transe de joie du matador, il est sublimé, la foule se lève, donc c'est un lien avec le public particulier, hein. c'est la gloire, hein. les anciens qui viennent des Indo-Européens, dont les Romains descendent, et c'est la corrida, c'est la gloire, donc c'est une communion parfaite, et moi j'étais au milieu de l'arène quand là, une foule, quand vous avez 20 000 personnes qui se lèvent lors d'un triomphe, quand on le vit avec lui, et alors quand il est plus aimé, quelle est cette peur, cette...
Non, d'abord, pour le public, c'est un petit peu comme la peur. Il n'y a pas un public, il y a des publics. Ça, c'est très important de le dire. Le public de Séville a une sensibilité qui n'a rien à voir avec la sévérité du public de Madrid. Le public du nord de l'Espagne n'est pas le même que celui du sud. Et puis, la foule, c'est extrêmement mystérieux. Des fois, vous ne savez pas pourquoi, d'un seul coup, 5 000 personnes se retrouvent d'accord pour dire aujourd'hui on n'a pas envie d'être gentil du tout.
Oui. Hein?
Et puis d'autres fois c'est exactement le contraire, ils sont disposés à applaudir n'importe quoi. Bon, les bons toreros savent bien quelles sont toutes ces nuances-là. Et c'est pour ça que vous parlez d'une manière globale, je ne peux pas, parce que je crois que c'est vraiment...
C'est voilà. Cas par cas, quoi.
Et la preuve, regardez par exemple même une feria comme Nîmes, des fois, ben, le public du samedi est différent du public de 2 jours après, on ne sait pas trop pourquoi. Le premier jour, ils sont rouméga, ils casse-pieds, ils ne trouvent rien bien, ils gueulent. Si la musique fait une fausse note, ils se rendent compte immédiatement. Et puis 2 jours après, ben, on ne sait pas pourquoi, ils sont de bonne humeur, ils sont magnifiques, ils applaudissent tout. Et...
Alors, est-ce que le matador a ce lien avec le public? Est-ce qu'il ressent, comme il évalue son taureau, est-ce qu'il évalue le public? Est-ce qu'il ressent, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une communion, un échange avec le public?
C'est beaucoup moins simple que ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où le matador Des fois pour des bonnes raisons, des fois pour des très mauvaises. Hein.
Oui.
Des fois, Matador se rend compte que le public ne réagit pas parce qu'ils n'ont pas compris et se dit « bon, mais il va falloir que je fasse quelque chose pour les réveiller
oui. ».
Et là, il peut faire deux, trois trucs à quatre balles qui vont plaire
ah, oui, oui.
aux mauvais aficionados. Toreros sont comme tout le monde, ils ont d'énormes qualités et de grands défauts.
Mmh, d'accord. Ouais. Et alors, il y a aussi la peur de ne plus être Matador. Alors, vous l'avez connu peut-être, mmh. Ou la déception, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler, la déception, de la peur de ne plus pouvoir entrer dans les ruedos, être habillé? Est-ce que c'est quelque chose qui frappe les Matadors?
Moi, je crois que ça frappe tout le monde, hein, parce que l'arrêt d'une profession, quelle qu'elle soit, torero entre autres, hein, ça veut dire que le temps a passé, ça veut dire que vous êtes moins jeune, ça veut dire que vous rentrez dans une autre phase de votre vie. Et pour les toreros, c'est extrêmement violent, parce que pendant tout le temps où ils ont été dans les arènes, ils ont été sur les routes face aux taureaux, à vivre des choses d'une grande intensité, et d'un seul coup se retrouver à la maison, comme tout le monde, avec la conscience que le temps a passé, que ça ne reviendra pas, qu'il ne sera plus le torero. Tout ce qui donnait du sens à sa vie, tout ce qui l'aidait à mieux vieillir, disparaît. C'est une amputation. Moi, je connais beaucoup de toreros retirés.
Pour vous,
presque tous en souffrent beaucoup.
Pour vous, c'est une amputation. C'est-à-dire que c'est une maladie.
C'est une amputation pour les autres. Pour moi, c'est autre chose. Là, je ne vous parle pas de moi.
J'essaie de
répondre
aux
toreros en général. Moi, effectivement, arrêter de taurer a été pour moi non pas une amputation, parce que ça a été une tristesse, mais une tristesse qui a été très largement compensée par le fait qu'en m'arrêtant de taurer, j'allais employer toute mon énergie à aider mon frère.
Oui.
Bon, après avoir essayé de le décourager quand même.
Oui.
Quand je me suis rendu compte qu'avec ou sans moi, il serait torero, si, c'est beaucoup plus intelligent qu'il soit avec moi.
C'est-à-dire, votre arrêt, voilà. En fait, votre mort, entre guillemets, bien évidemment, comme on dit actuellement, de Matador a donné la vie à votre frère de son
oui,
œuvre.
Oui,
parce qu'il a une œuvre,
oui,
quand même. Hein.
À mon frère et à d'autres.
Et à d'autres,
que,
oui. Parce
que si vous voulez, on parlait tout à l'heure de Simon Casas, quand nous sommes rencontrés à 17 ou 18 ans, on était un peu rebelles, ce qui est un peu la moindre des choses. Et on nous rabattait les oreilles avec des conneries dans le genre, mais pour rigoler, pour être torero, il faut être espagnol. Il faut avoir du sang espagnol dans les veines. Nous qui n'étions pas commodes à l'époque, on disait pourquoi il y a un chromosome taurin,
oui,
on n'était pas au courant, etc. Et quelque part, sans que ça ait été notre principale priorité, mais enfin quand même, on a voulu démontrer que tous ceux qui étaient aussi sceptiques avec nous, qui avaient des idées aussi bêtes, comme si le courage, le bon sens, le talent étaient l'apanage d'une nationalité, c'était un discours d'une crétinerie
oui,
extraordinaire.
Pour le reconnaître maintenant.
Et elle était tenue par des gens que nous admirions quelque part, dont nous pensions qu'ils étaient intellectuellement solides.
Oui.
En fait, c'était faux, c'était un phare. Et aujourd'hui, pour en arriver aujourd'hui, quand dans les années 60, on disait un Français ne peut pas être torero, lorsque nous avions eu avec Casas le prix de la Fondation de la Vocation,
ouais.
on était considérés comme des choses extrêmement étranges. Vous vous rendez compte, un Français torero, mais c'est complètement dingue ce truc. Et aujourd'hui, en 2025, il y a une quinzaine de matadors français de très bonne qualité. Donc, quelque part, on a gagné aussi une partie de ce combat contre la bêtise.
Eh bien, un très très grand merci, monsieur Alain Moncouquiole. Nimigno 1, le Nîmois.
En fait, si on était exact, je ne devrais pas m'appeler le Nîmois, puisque je suis auvergnat.
Oui, mais vous êtes devenu Nîmois.
J'aurais dû m'appeler Elevarnia, mais ça
aurait ça n'avait pas marché. Mais le Nîmois, le premier Nîmois, c'est quand même un beau nom de torero. Merci infiniment à vous, merci de votre expérience.
Merci à vous.
Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui, les livres d'Alain Moncouquiole, bien évidemment. Alain Moncouquiole est aussi écrivain, il faut le savoir et il faut le lire. En deux mots, pourquoi écrire, monsieur Moncouquiole?
Pourquoi écrire? Alors écoutez, ça, franchement, c'est la question la plus terrible que vous puissiez poser
alors,
à quelqu'un.
Alors attendez,
je ne peux pas vous répondre en 30 secondes.
Mais je vais vous proposer quelque chose. Alors voici les principaux ouvrages d'Alain Moncouquiole. Recouvre le de lumière, La Grâce France édition Verdier 1998, Le sens de la marche, La Grâce France édition Verdier 2008, qui a reçu le prix Jean Carrière 2009, mais aussi aux éditions Verdier, La Bonne Distance, Le Fumeur de Souvenirs, Claude Vialat, Alain Moncouquiole, Tauromachie, tome 1, Paso del Toro, Saint-Étienne, France, les cahiers intempestifs 2004. Si vous le voulez bien, avant de clore cette émission, je vous propose, suite à ce que vous venez de dire, de nous retrouver, si vous le voulez bien évidemment, pour une autre émission que j'intitulerai volontiers « La tauromachie et le besoin de s'exprimer ». Torero et écrivain, un besoin pathologique de s'exprimer. Je me permets de remercier Louis à la technique et Chanel au site internet au visuel. Je me permets de renouveler mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute. Votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.